L'évangile que nous entendons ce matin est la suite très exacte de celui d'hier. Hier, nous avons assisté à cette scène étrange. Des gardes, envoyés par les chefs des prêtres pour arrêter Jésus et qui rentrent bredouille. Leur argument : jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. C'est réellement l'illustration de cette parole à laquelle nous assistons ce matin. La puissance de la parole du Christ. En trois phrases et deux silences, il retourne totalement une situation. Mais prenons garde. Il ne s'agit pas pour nous ce matin de nous réjouir parce que Jésus, une fois encore, a réussi à confondre ses adversaires. Ce qui est en cause est beaucoup plus profond et beaucoup plus essentiel. Je n'hésiterai pas à dire que cette page que nous entendons ce matin a réellement une dimension pascale. Non seulement parce qu'une femme va être sauvée de la mort imminente, mais parce qu'il est beaucoup plus difficile de ressusciter des cœurs que de ressusciter des corps. Or, c'est à cela que nous assistons ce matin. Des cœurs vont revivre. Comme toujours chez saint Jean, la scène est très visuelle, extrêmement bien construite, quoique dans une très grande sobriété. Jésus, tout d'abord. Trois attitudes caractéristiques. Il est assis, nous dit-on, au début, et c'est en effet la posture normale de celui qui enseigne. Le maître est assis, tandis que les disciples qui l'entourent sont debout. Et puis, il y a ces deux moments où il va se pencher vers la terre. Ce sont les moments où il garde le silence. Et puis enfin, il y a cette posture droite de l'homme debout, du Fils de Dieu, qui parle avec autorité et dont la parole est efficace. Il y a une deuxième façon d'aborder visuellement cette scène. Il nous est dit qu'au début, Jésus est entouré de la foule. Une foule disparate, sans doute, anonyme. On aperçoit juste le maître qui est assis. Puis, un petit cercle se crée. C'est celui des accusateurs de cette femme qui viennent la pousser comme un objet tout à coup au milieu de cette foule. Et on voit ce cercle, cette femme, le Christ. Et le cercle se referme, puisque la scène s'achève sur deux personnages, la femme et Jésus seul. Parce qu'en effet, le cœur de la question, c'est cette femme, doit-elle vivre, oui ou non? Il faut répondre à cette question. Jésus refuse d'entrer dans la problématique qu'on lui a préparée, toute faite. De sorte que, quelle que soit la réponse qu'il est censé donner, il va être perdant. Jésus n'entre pas dans ce calcul. Il est un peu agaçant parce qu'il ne répond pas à la question. Bienheureux silence. Il décide de se taire et il est penché vers le sol. Bienheureux silence qui va permettre à ses auditeurs, les accusateurs de la femme, de faire retour sur eux-mêmes et de pouvoir accueillir la parole qu'il va leur dire, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Sans doute avaient-ils déjà une pierre en main, et ils vont quitter la scène l'un après l'autre. On aurait envie d'ajouter piteusement, et peut-être au bonheur de la foule, tellement heureuse de les voir confondus. Et il y a encore cette femme, elle est là. Il faut trancher de son sort. Deuxième silence. Cette fois, pour faire saisir quelque chose à cette femme, lui faire saisir qui est là, en face de lui, en face d'elle. Et cette question un peu étonnante, presque ironique de Jésus, parce qu'elle est évidente, la réponse, « Femme, personne ne t'a condamnée. » Il a bien vu qu'ils étaient tous partis. Mais il veut entendre la voix de cette femme. Il veut qu'elle soit partie prenante de cette conversion qu'elle aussi a à vivre. Personne, Seigneur. Et la réponse qui fuse, qui sans doute laisse tout le monde bouche bée, à commencer par cette femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Bien souvent, après les miracles, car c'est un véritable miracle qui s'opère ici, les évangélistes notent l'enthousiasme de la foule. Pas un mot ici, sans doute, parce qu'on reste bouche bée en entendant cette parole de vie, cette parole qui redonne vie à cette femme, comme elle a précédemment redonné vie à ces cœurs endurcis qui voulaient la mettre à mort. Dans son prologue, Jean nous dit que la loi est arrivée par Moïse, mais la grâce et la vérité par Jésus. Jésus ne pouvait pas récuser la loi. Il en est l'auteur, en tant que fils de Dieu. Et il a clairement annoncé, de la loi, rien ne sera aboli. La vérité de la loi est maintenue. Ne pêche plus. Mais la grâce est affirmée. La grâce dans son sens premier, pas d'abord théologique. La grâce dans le sens d'un souverain qui a le pouvoir de sauver une vie, de gracier une vie. L'évangéliste ne nous dit rien sur les traits que Jésus a tracés sur le sol. Peut-être les pharisiens et les scribes ont-ils lu une suite de vices dont ils sont porteurs. Et peut-être que c'est cela qui a ouvert leur cœur. Et la femme, quand Jésus s'est penché pour la deuxième fois et qu'il écrivait au sol, qu'a-t-elle lu ? Peut-être un seul mot, miséricorde. Miséricorde qui ne signifie jamais ignorance de la vérité du mal, mais qui va bien au-delà. En fait, dans cet évangile, Jésus montre avec force, avec autorité, qu'il est vraiment celui qui sauve. Il est celui, comme disait Isaïe dans la première lecture que nous avons entendue en allemand, celui qui fait toute chose nouvelle. Si nous revenons au début de la scène, si nous la parcourons et que nous arrivons à son dénouement, j'aurais envie de dire, Le monde a changé. Et voilà le pouvoir du Christ mort et ressuscité que nous nous apprêtons à célébrer.